Donc Marc chapitre 2. Nous allons commencer ce chapitre 2. Marc chapitre 2. Et le sujet c'est le Jésus, le paralytique et ses amis. Hein, les amis du paralytique. Donc je vais lire les 12 premiers versets de Marc chapitre 2. Il dit quelques jours après la guérison du lépreux, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, « Prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ce récit nous est aussi rapporté dans l'évangile de Luc et à peu près avec les mêmes détails. En lisant ce passage, on pourrait se demander, mais quelle était l'intention de Marc? Pourquoi a-t-il écrit ceci et comme il l'a écrit? Si le but était de focaliser notre attention sur le miracle, eh bien, il nous aurait dit un peu plus sur le miracle. En fait, il dit très peu sur le miracle. On aurait des questions à poser par rapport à cela. Cet homme, certainement, était paraplégique, puisque le miracle porte sur sa capacité de marcher. Donc c'était certainement au niveau des jambes, ou la partie inférieure, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut deviner à partir de là. On n'en sait pas plus, ni pourquoi il est malade, comment exactement il est malade. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est paralytique, et qu'il est partiellement paralysé. Mais regardons ailleurs, voir s'il y a d'autres raisons pour lesquelles il aurait mis ce passage. Est-ce que c'est pour que on déduise du fait que Jésus dit, voyant leur foi, Jésus dit à l'homme, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que c'est, il faut comprendre quelque chose sur ce que la part que d'autres peuvent avoir dans le salut, le pardon des péchés d'un autre, serait-ce les pensées qu'ont eues ces scribes, hein, ils ont dit, mais comment peut-il pardonner, hein? Dieu seul pardonne, pourquoi, comment se peut-il que lui pardonne? Il blasphème. Et on pourrait penser là, mais même cela n'est pas trop développé. Peut-être qu'on pourrait penser, dire, mais voilà justement une démonstration visible de la divinité de Christ, hein, puisqu'il peut et guérir et pardonner, donc il est Dieu, ce n'est pas faux. Ou est-il, y a-t-il autre chose? Qu'est-ce qu'on pourrait voir et qu'est-ce qu'il veut nous montrer et qu'est-ce que nous avons pour nous ce matin dans ce passage? Écoutez, on va déjà, on se situe. Ils sont dans la maison de Simon-Pierre, ils sont de retour. Hein, dans le chapitre 1, ils étaient là, c'est là qu'il avait guéri la belle-mère de Simon. Et après, dès le coucher du soleil, il y avait toute une foule qui s'est amassée devant la maison. Ici, c'est certainement la maison de Simon aussi. Et encore une fois, toute une foule se présente devant la maison de Pierre, serment Simon-Pierre et d'André. Ce que nous voyons aussi dans ce passage, c'est que, comme dans le chapitre 1, après que Jésus ait chassé le démon de cet homme dans la synagogue, tout le monde était là dans l'étonnement, il nous dit. Ici, il nous dit qu'ils sont étonnés. Hein, c'était la stupéfaction dans le chapitre 1, c'est ici, c'est l'étonnement. Ce que nous remarquons quand même à la fin de ce chapitre, c'est qu'il glorifie Dieu. Hein, il glorifie Dieu et ça c'est important. Au moins, il tourne l'attention sur là où ça doit être. Hein, parce que dans Romains chapitre 1, verset 21, il nous dit que parce que les hommes ont eu conscience de la présence de Dieu et qu'ils ne l'ont pas glorifié, eh bien, il lui est arrivé toutes sortes de malheurs. Hein. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous circulez, vous trouvez plein de gens qui disent, oui, Dieu, d'accord, mais ils ne le glorifient pas, ils ne le rendent pas grâce, et alors nous avons le monde que nous avons. Même s'il y avait un certain pourcentage de croyants qui se diraient croyants, eh bien, mais ils ne glorifient pas Dieu, ils ne lui rendent pas grâce, et donc, eh bien, les choses sont ce qu'elles sont. Mais, aller dans l'ordre du passage, et la première chose que Jésus fait quand il voit venir cet homme, c'est qu'il regarde aux amis, hein. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus tourne les regards, et dans un sens, nous allons aussi tourner nos regards vers ses amis. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Certainement que Jésus en voit plus que nous, hein, parce que lui, quand il voit une situation, il voit en profondeur. Nous, c'est un détail, bien sûr, il fallait 4 amis pour le porter. Déjà, dernièrement, j'étais dans un enterrement, et bien pour porter le cercueil, ils étaient 6 hommes. Hein, donc, c'est du poids, sans faire un jeu de mots, c'est du poids mort, hein, c'est lourd. Mais là, c'en est 4, donc c'est tout à fait logique, mais est-ce que c'est vraiment là, le fait qu'ils soient 4? Mais il nous dit que ce sont des amis qui l'ont porté jusque-là, et c'est pas de la famille, c'est des amis. Et là, certainement, Jésus a vu quelque chose, parce que ce sont des amis fidèles. Hein, cet homme est paralysé, il ne peut plus les suivre, il n'est plus utile pour eux, et pourtant ils sont encore là, ils cherchent son bien. Hein, et c'est un peu ce que Salomon dit dans son recueil de proverbes. Il dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il est comme un frère. Hein, Jésus, déjà, il voit des amis qui sont fidèles. Et ça attire son attention. Ils sont là et on voit qu'ils sont prêts à tout faire, hein, jusqu'à défaire le toit de la terrasse, ou si les gens étaient debout devant la maison, s'ils étaient à l'intérieur, dans la cour, je ne sais pas, mais on a du mal à imaginer comment ça s'est passé exactement. Mais au moins, ils étaient prêts à aller jusqu'au bout et faire le nécessaire pour que cet homme se place, soit apporté devant le Seigneur. Mais je vois le Jésus qui voit cette motivation chez ses amis. Et Jésus prend très au sérieux cette fidélité des amis, parce que dans la chambre haute, beaucoup plus tard, on lit dans Luc 22, Jésus est avec ses disciples dans la chambre haute et il dit « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Il dit « Vous êtes ceux, hein, de parmi tous les gens que j'ai rencontrés pendant 3 ans et demi, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi même dans les épreuves. Dans les moments difficiles, vous étiez encore là. » Jésus remarque cela. Hein, il voit que ses 4 amis, eh bien, sont là avec... ils sont fidèles. Jésus a dit, hein, dans la chambre haute, il dit, vous avez été avec moi jusque dans les épreuves. Mais vous savez ce qu'il dit juste après. Donc c'est Luc 22 et le verset 28, il dit, et le verset 28, 29 et 30, hein, donc après, il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans le royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà ce qu'il promet. Vous avez été mes amis, vous avez été avec moi même dans les moments difficiles, eh bien vous savez, moi je vous réserve une place. Sans aller dans l'explication de ce à quoi il fait référence, ce que je comprends, c'est que d'abord, il est prêt à honorer ceux qui sont fidèles. Ceux qui sont fidèles jusqu'au bout, il veut bien les honorer. Et c'est nous, parce que beaucoup de monde avait couru après Jésus, hein, quand il y avait la foule, eh bien la foule attire la foule. Mais quand, durant la semaine de la Passion, eh bien Jésus s'est retrouvé seul. Hein, surtout sur la croix. Et donc nous voulons compter parmi les amis de Jésus, ceux qui sont fidèles jusqu'au bout. Hein, c'est ceux-là qu'il désire, c'est ceux qu'il veut, et nous voulons nous en souvenir. Hein, et il veut s'en souvenir, et d'être fidèle dans l'épreuve, dans les moments difficiles. Il y a ceux qui n'ont pas renié le Seigneur, et même de nos jours, hein, il y a des pays où il y a un prix à payer si on s'associe à Jésus. Et il va reconnaître ceux qui n'ont pas eu honte de lui. Hein, il dit, je me souviendrai d'eux devant le Père. Et donc, même ici en France, peut-être on ne souffre pas de la persécution, mais parfois on n'est pas très franc avec notre identité, hein, notre appartenance à lui et notre relation avec lui. On n'en fait pas un cas, c'est une chose... on essaye de nous dire que c'est quelque chose de privé, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, mais gardez-le pour vous. Nous, on dit ce qu'on pense de votre Dieu et on dit ce qu'on pense de la foi, mais vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez de nous. Hein, c'est un peu l'injustice que nous avons dans notre monde. Nous ne devons pas porter quoi que ce soit qui indiquerait notre appartenance. Nous n'avons pas le droit de parler. Nous n'avons pas le droit d'exprimer la pensée du Seigneur. Mais eux, ils peuvent tout dire. Hein, c'est ça, la liberté de la parole, hein, selon certains. Mais le Seigneur dit, écoutez, moi... je ne veux pas que vous ayez honte de moi. Hein, il dit à ses disciples, vous avez été avec moi, même dans l'épreuve, vous ne m'avez pas renié, eh bien moi je ne vous renierai pas non plus. Et donc Jésus, dans cette admiration de ses 4 amis, eh bien non seulement est-ce qu'il voit leur fidélité, mais il voit leur foi. Il nous dit que, voyant leur foi, leur foi était évidente, elle était visible. Ils voyaient que eux avaient apporté de là où habitait cet homme, ils l'ont emporté jusque là et jusqu'à devant le Seigneur. Pour que ses amis le portent jusque là, c'est qu'ils étaient convaincus qu'ils n'auraient pas à le porter, le ramener à la maison. Hein, que venant là, son problème serait réglé. Et ils ont exercé de la foi et ils l'ont amené parce qu'ils savaient que il serait délivré, il serait guéri. Parfois, ils ont dit, voyant leur foi, il dit à l'homme, tes péchés sont pardonnés, mais il n'y a pas de lien entre le fait de leur foi et son pardon des péchés. Hein. Si on avait que ce verset-là dans la Bible, on pourrait déduire cela. Mais une des règles d'interprétation de la parole de Dieu, c'est qu'on interprète un passage toujours dans le contexte de la Bible. Et partout ailleurs, eh bien, il nous est enseigné que c'est la personne elle-même qui confesse son péché, c'est elle, et si elle demande, faisant confiance à la croix de Christ et ce que Christ a fait sur la croix, eh bien, elle peut recevoir le pardon. Donc ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre, c'est pas la mère ne peut pas exercer de la foi pour le fils et le sauver, un ami ne peut pas le faire, et surtout pas après qu'ils sont morts. Hein, donc ce n'est pas ça qu'il faut déduire de là, ce n'est pas ça qu'il veut dire, mais ce que nous pouvons voir, c'est que ces hommes ont exercé de la foi, ils ont amené l'homme jusqu'à Jésus. Et il a trouvé le pardon de ses péchés. S'ils ne l'avaient pas amené jusque-là, s'ils n'avaient pas exercé de la foi pour l'amener jusque-là, ils n'auraient pas eu le pardon de ses péchés. Mais parce qu'eux ont exercé de la foi, ils avaient confiance en les capacités de Dieu, ils l'ont porté jusque-là, et lui a pu trouver et la guérison et le pardon de ses péchés. Je prends une illustration, peut-être. Ce n'est pas la lune qui éclaire nos nuits. La lune ne fait que refléter la lumière du soleil et éclaire nos nuits. La lumière vient du soleil, pas de la lune. Mais d'un autre côté, si la lune n'était pas là, eh bien nos nuits seraient sombres. Hein, donc c'est un peu cette idée de si ses amis n'avaient pas porté l'homme jusqu'à Jésus, eh bien, ils n'auraient pas eu ni la guérison, ni le pardon de ses péchés. Mais parce qu'eux, ils ont exercé. Et là, je suis en train d'illustrer l'importance et le rôle que nous pouvons avoir dans le salut des âmes. C'est que nous pouvons rien apporter, ni par nos prières, ni par quoi que ce soit, ou notre sincérité, par notre désir. On ne peut pas amener le salut chez quelqu'un. Mais ce qu'on peut, en exerçant de la foi, sachant que le Seigneur reçoit n'importe qui, que le Seigneur peut sauver n'importe quelle personne qu'on amène à lui, qui le rencontre, eh bien, nous exerçons de la foi à amener les personnes à Christ ou amener l'Évangile jusqu'à eux, et eux peuvent recevoir. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis 2000 ans. C'est que Jésus n'est plus là, lui, il est la lumière, mais le monde ne peut pas le voir. Mais par la présence de ceux qui sont au Seigneur, eh bien, Jésus qui a dit que vous êtes la lumière du monde, nous n'avons pas de lumière en nous, mais nous ferons que refléter la lumière du Seigneur dans ce monde. Et grâce à nous, eh bien, les gens peuvent découvrir. Quelqu'un vous a parlé pour vous amener à Christ. Quelqu'un vous avait apporté l'Évangile. Vous l'avez trouvé dans la maison, dans certains cas. Dans d'autres, c'est quelqu'un qui vous en a parlé. Quelqu'un vous a conduit vers quelqu'un qui pouvait vous informer. Ce n'est pas eux la lumière, mais c'est eux qui ont fait le rôle de la lune, qui reflète la lumière et qui ont pu éclairer le chemin. Et donc, ces hommes, eh bien, ils ont eu un rôle important et le Seigneur le reconnaît. C'est qu'ils ont, en exerçant de la foi, croyant que Jésus pouvait réellement guérir cet homme, et Je ne sais pas s'il pensait au pardon de ses péchés, mais en tous les cas, il pensait à sa guérison physique. Et ils l'ont amené jusque-là. Ils ont exercé de la foi. Maintenant, c'est... Vous pouvez imaginer maintenant, une fois que cet homme est guéri, hein, le Seigneur lui rend l'usage de ses jambes, maintenant, ils vont imaginer la joie qu'ils ont en rentrant à la maison. Hein. C'est un peu ce qu'on a chanté tout à l'heure, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Hein. Maintenant, waouh, je me sens léger, je vais... Et comme j'ai un peu d'imagination, j'imagine qu'ils ont eu du mal même à le suivre tellement. Parce que lui, il avait des jambes toutes neuves. Hein, et puis en plus, il est heureux. Hein, donc il a pu rentrer. Et la joie, elle était partagée et par les quatre amis qui l'ont porté, et par l'homme lui-même qui a trouvé le Seigneur. Et comme il nous dit... Quand une personne trouve le Seigneur, ça nous apporte à tous de la joie, nous nous réjouissons avec lui et dans le Seigneur, et même il nous dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui ne croient pas avoir besoin de repentance, hein, qui n'ont pas besoin de repentance. Cet homme, ces quatre hommes, eh bien, ils ont eu un rôle important dans la vie de leur ami. Ils ont été fidèles, ils ont cherché son bien, même si dans son état, il n'avait plus d'utilité pour eux, mais ils sont restés fidèles, ils l'ont apporté, ils ont entendu parler de Jésus, ils ont dit « on va t'emmener rencontrer ce Jésus de Nazareth, lui pourra te guérir. Je suis sûr, on t'emmène. » Et lui, peut-être, ce qu'on pourrait se poser la question est... à cause de ce que Jésus dit après, hein, parce que il se peut que cet homme, s'il a cette paralysie, peut-être que c'était le résultat d'une vie qu'il a menée, qui n'était pas à la gloire du Seigneur. Hein. Je ne dis pas que chaque fois qu'on est malade, c'est à cause d'un péché, mais nous savons aussi qu'il y a certaines maladies qu'on a, c'est à cause du péché, hein, à cause d'une désobéissance. Et ceux qui savent, parce que j'en ai rencontré quelques-uns qui étaient convaincus que la maladie qu'ils avaient, c'était à cause de leur péché, et c'est eux qui l'ont décidé, donc je ne pouvais rien dire. Mais ces gens-là, eh bien, ils ont du mal à venir au Seigneur. Ils disent, mais moi je savais, j'ai fait exprès, c'est ma faute, c'est moi qui me suis mis dans cet état, c'est moi qui... Et donc je suis sûr que Dieu ne peut pas me pardonner. Et ces personnes-là, eh bien, c'est le rôle que nous pouvons avoir en tant qu'amis de leur dire « Non, 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 viens, viens, viens. C'est, peu importe si c'est ta faute, si tu es une victime ou si tu étais la personne qui a initié la chose ou ta bêtise qui l'a faite, eh bien, viens. Hein. » Quand on va aux urgences de l'hôpital, on ne se pose pas la question si c'est la faute à quelqu'un d'autre, si c'est notre faute, si c'était... Non, on soigne d'abord, puis après on discute. Hein, et on vient à Jésus, on vient parce qu'il peut nous soigner. Jésus, après avoir vu ces hommes, eh bien, maintenant il se tourne vers le malade et il lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». On nous dit, mais il n'a jamais posé la question. C'était évident qu'il avait besoin d'être guéri, ça se voyait. Hein? Mais il n'a pas posé la question, « Seigneur, je voudrais que mes péchés soient pardonnés. » Mais ce, on le trouve ailleurs aussi. Hein? Vous pensez à la femme qui avait une perte de sang. Elle avait la guérison, et puis elle était partie, elle l'avait fait discrètement. Et Jésus attire son attention, la fait revenir, et puis il dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Quand il y avait les 10 lépreux, tous les 10 sont partis, ils ont été guéris en chemin. Il y en a un, le Samaritain, est revenu. Et quand il est revenu, il s'est jeté devant le Seigneur et Jésus a dit « Tes péchés sont pardonnés ». Donc il y a plusieurs cas de personnes qui n'ont pas demandé, mais Jésus, connaissant l'état de leur cœur et le sentiment de leur cœur, eh bien, il leur a accordé le pardon des péchés. Il ne l'a pas fait systématiquement. Ce n'est pas tous ceux qui venaient à lui pour être guéris qui avaient les péchés pardonnés. Il y a un travail dans le cœur et le Seigneur voit le cœur. Si Jésus pouvait savoir ce que pensaient ses scribes qui étaient ses ennemis, combien plus il pouvait savoir ce que cet homme avait dans son cœur qui lui le recherchait. Et Jésus lui dit tout simplement, hein, ça, c'est très simple, mon fils, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et je vais attirer votre attention sur Jacques, parce qu'on a une situation d'une personne malade, et puis, bon, je suggère, hein, je ne peux pas être sûr, mais je suggère peut-être, je prends le cas par exemple, je fais semblant que c'est à cause de lui, de sa vie pécheresse dans le passé, qu'il est malade, et pour prendre le pire des cas, et je lis maintenant dans Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, et les versets 14 et 15, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Le verset suivant dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. » Il est en train de justement prendre des situations. Là, c'est un cas, pour moi, comme je comprends, c'est un cas particulier d'une personne qui est malade à cause de péchés dans sa vie. Et donc, il veut mettre les choses en règle avec Dieu. Il appelle les anciens de l'Église, il confesse son péché, il leur dit « Voilà, je mets les choses en règle avec Dieu maintenant, est-ce que vous pouvez prier que Dieu puisse retirer de moi la conséquence ou le jugement qui est sur moi, hein, qu'il me pardonne mon péché et maintenant qu'il me soulage du jugement que j'ai à cause de cela ?» Et donc, il nous dit que le Seigneur le fera. Hein, et si c'est un peu... il nous dit donc de confesser les péchés les uns aux autres. Il y a une question, il y a un lien entre confesser le péché et la maladie dans ce cas-là. Hein, et donc, c'est pas systématiquement, c'est pas l'huile, ni l'huile d'olive ou ni l'huile, une autre huile qui guérit. C'est pas systématiquement, c'est pas un moyen de guérison. Hein, et on ne doit pas le prendre comme cela. C'est des cas particuliers de situations où, à cause du péché, hein, la personne a une certaine souffrance. Et il n'y a que la personne elle-même qui le sait, qui peut juger de cela. Et donc, et l'exhortation, eh bien, c'est de nous encourager mutuellement à rester en règle devant le Seigneur et lui peut nous apporter la guérison, le soulagement. Donc nous devons nous encourager les uns les autres à rechercher le pardon auprès du Seigneur. Vous savez, il n'y a pas que de la souffrance physique. Il y a des gens qui sont il y a un problème. Il y a de l'amertume, il y a de la haine, il y a des choses contre un frère, et ça les travaille au point que de les affecter, peut-être pas physiquement tout de suite, mais les affecter dans leur âme. Hein, et donc après, ils ne peuvent pas penser autrement. Je parlais récemment à quelqu'un qui a une situation dans leur église, et je lui ai dit, mais écoute, il faut que tu règles ça, parce que tu es en train de souffrir toi-même, même si tu es convaincu que c'est lui qui a tort, mais parce que c'est dans ton esprit tout le temps, chaque fois que tu lis la Bible, tu penses à lui, chaque fois que tu pries, tu penses à lui, tu n'es pas en train de penser au Seigneur, le Seigneur n'est pas en train d'occuper tes pensées, c'est quelqu'un d'autre qui est en train d'occuper tes pensées. Eh bien, ça va te fatiguer spirituellement, ça va te fatiguer dans ton âme, et éventuellement, ça se ressent dans le corps. J'ai dit, écoute, il faut que tu ailles régler ça, hein, et que ça s'arrête, et qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait pardon, et que vous puissiez aller de l'avant, et donc trouver le repos de l'âme, trouver le rétablissement dans le corps, et puis trouver la communion dans l'Église. Et c'est très important, et c'est y a un lien, il y a quand même un lien entre le pardon et la santé. Et là, ici dans Jacques, eh bien, l'homme confesse son péché, les anciens prient, dit Seigneur, voilà, il confesse son péché, le pardon vient de toi. Eh bien, ce que nous te demandons, c'est maintenant de le soulager de cette conséquence et de lui faire retrouver sa santé, comme on dit, retrouver ses nouvelles jambes, hein, et afin qu'il puisse marcher de nouveau dans la voie du Seigneur. Et je suis témoin de combien de personnes ont pu être délivrées dans ce sens et qui ont commencé à vivre une vie victorieuse dans le Seigneur. Nous revenons à notre passage du paralytique, et c'est vrai que on voit la fidélité des amis et le rôle important qu'ils ont eu et le rôle qu'on peut avoir dans la vie d'amis, de membres de la famille, d'autres personnes, le rôle qu'on peut avoir et en exerçant de la foi nous-mêmes, les amener. Combien, c'est vrai, combien de fois j'avais comme l'impression que la personne s'appuyait sur ma foi pour croire au Seigneur. Il dit, tu es sûr? Tu es convaincu? Ah oui, non, je sais que le Seigneur peut. Ah, bah écoute, si, bon, bah écoute, je. Presque il s'appuie sur la foi d'un autre, hein, et on amène la personne. Mais il y a le moment où elle rencontre et elle règle les choses directement avec le Seigneur. Mais le rôle que nous pouvons avoir est tellement important. Et deuxièmement, eh bien, il y a on peut accompagner quelqu'un qui a besoin de réconciliation avec le Seigneur, ou qui peut avoir. On peut être ami dans ce sens, être frère dans ce sens, l'aider à régler ce problème pour trouver du soulagement. Et c'est si important. Et puis troisièmement, bien sûr, je reviens au fait que cet homme, eh bien, Jésus lui pardonne ses péchés, et les scribes, ils réagissent, c'est vrai, dans leur réaction, mais il n'y a que Dieu qui pardonne le péché, et c'est certain, hein, il n'y a pas aucun homme, hein, vous ne pouvez pas venir, et personne n'a le droit de vous dire « je t'absous ». Il peut dire, il n'y a que le Seigneur qui pardonne. Hein, toute offense est premièrement contre Dieu. Hein, c'est ça que David disait, j'ai péché contre le ciel et contre toi, disait le fils prodigue. Hein, il disait, d'abord j'ai désobéi à Dieu, et deuxièmement j'ai désobéi à quelqu'un ou une institution ou à autre chose. Et donc le premier à aller voir, c'est celui qu'on a offensé le premier. Donc Dieu confessait son péché à lui. Et confesser, ça ne veut pas dire faire des excuses. Confesser, ça veut dire de mon péché ce que lui dirait de mon péché. Hein? Ce que nous voyons, c'est que Jésus, eh bien, il ne pose pas de questions, il rien du tout, il dit tes péchés sont pardonnés. Il peut pardonner et il pardonne. Hein? Il n'y a pas une question de... pourquoi tu l'as fait, comment c'était, est-ce qu'on t'a provoqué ou est-ce que c'était vraiment délibéré, il ne pose pas ces questions. Tu confesses ton péché, je te pardonne et je te relève. C'est ce qu'il fait avec cet homme. Les scribes ont réagi. Il dit, ben écoutez, pour que vous sachiez, moi je vais vous donner, hein, ça va être c'est d'apologétique, hein, je vais justifier la chose, mais je vais vous donner quelque chose de visible. Hein. Le fait de pardonner péché, il n'y a pas de preuve visible que ces péchés étaient réellement pardonnés. Mais je vais vous donner quelque chose que vous pourrez voir. Il dit, voilà, quel est plus aisé, quel est plus facile à faire? Dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit qui fait l'un ou qui fait l'autre. Hein, et surtout dans ce cas-là, c'était pas seulement de nos jours, les médecins font des choses merveilleuses et nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas faire ce que Jésus a fait. Hein, cet homme-là, il part de l'état paralysé depuis je ne sais combien de temps. Et vous savez que la marche, c'est une chose qu'on oublie. Hein, le corps oublie. Hein, c'est pour ça qu'il y a toujours une rééducation après qu'on n'ait pas marché pendant un temps, un court temps même. Ça s'oublie très vite. Eh bien, Jésus relève l'homme, guérit le problème, l'origine du problème. Il remet du muscle sur la jambe et il donne la rééducation. Et tout en un instant. Au point que l'homme peut se lever, marcher, prendre son lit, même si c'était qu'un lit de camp ou quelque chose de très simple, mais il a pu le faire et partir. Tout était là. C'est une guérison comme on ne sait pas faire. Hein. Il dit voilà. Ça, vous le constatez, et les gens étaient là, ils étaient là, bouche bée, devant la chose. Et heureusement qu'ils ont glorifié Dieu. Mais, dit, écoutez, vous avez la preuve. S'il n'y a que Dieu qui peut rétablir dans ce sens-là, eh bien, vous pouvez comprendre que je suis Dieu. Et il ne dit pas la divinité, sa divinité. Hein, et nous, mais souvenons-nous, ce que nous ne voulons pas oublier et tirer de cette leçon, c'est ce rôle d'ami que nous pouvons exercer. Hein, cette part, hein, où dans un sens, Dieu n'a pas besoin de nous, et dans un autre sens, il a besoin de nous. Dieu, nous ne pouvons rien faire sans lui, mais en même temps, il se sert de nous pour porter l'évangile, pour porter le message, pour conduire quelqu'un à Jésus-Christ. Et c'est un rôle très important, et c'est un exercice de la foi, et nous demande de le faire. Et puis s'il y a quelqu'un a besoin et une hésitation par rapport à ses péchés, tout ça, c'est à nous, notre foi, qui est là pour le rappeler, lui dire, mais Jésus peut te pardonner. Il peut pardonner n'importe quel péché. Hein? Vous avez vu avec quelle rapidité il a dit au brigand sur la croix, il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il dit, tu vas même pas passer par un moment d'épreuve où on pourra t'observer, ni rien du tout, aujourd'hui. Alors que c'était quelqu'un qui, devant son collègue, a dit, nous on reçoit ce qu'on devrait recevoir. Hein? Si on est crucifié, c'est parce qu'on est digne de cela. Et Jésus, il dit, je te pardonne. Jésus a pu pardonner David, hein, il l'a rétabli. Une fois que David souffrait terriblement, hein, il suffit de lire les psaumes qui font référence à cela, il souffrait terriblement dans son être intérieur, mais quand il a, grâce à Nathan, qui est venu l'aider à confesser, lui a dit, écoute, peut-être tu as bien caché la chose à tout le monde, mais Dieu sait. Hein, ce que tu as fait, et tu dois le confesser. Et quand, une fois que David a confessé, tout d'un coup, il a trouvé du soulagement terrible, et il a pu être, il a dit, je retrouve mon chant, je retrouve la joie de mon salut, il y a une restauration totale. Mais heureusement qu'il y avait ce rôle de Nathan qui était là et qui a pu lui parler. Et donc, si nous avons l'occasion, hein, d'aider, d'être des amis de quelqu'un qui rencontre le Seigneur, eh bien faisons-le. C'est une opportunité terrible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous pouvons partager sa joie aussi. Hein? La joie, sa joie devient notre joie. Et la joie qu'il y aurait dans le ciel quand c'est une question de salut, quand c'est une question de réconciliation, eh bien il y a la joie aussi de cette part que nous pouvons avoir. Et donc n'hésitons pas, ne fuyons pas, on ne peut pas le forcer, mais si l'homme veut bien venir, et c'est à nous de porter la charge, même s'il y a une charge à porter, hein, ces hommes l'ont porté, et Jésus les recommande. Hein, donc que le Seigneur nous aide à être déjà dans un premier temps de bons amis du paralytique, et puis aussi sachant que le Seigneur pardonne le péché et que le Seigneur nous aide dans cette tâche. Et c'est ce plaisir et ce ministère qu'on peut avoir. Nous allons prier hein, que le Seigneur nous aide. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ces exemples cette possibilité du rôle que nous pouvons avoir dans le salut d'une personne. Nous ne pouvons pas la sauver, nous ne pouvons pas, ni par nos prières, ni par nos paroles, mais d'un autre côté, tu dépends de nous et tu comptes sur nous pour l'informer, pour l'amener à toi, pour qu'elle trouve le salut de son âme. Et Seigneur, aussi, ou pour celui qui a besoin de réconciliation, de confesser son péché et de revenir à toi, retrouver la joie de son salut. Seigneur, si nous pouvions avoir ce rôle et que tu puisses compter sur nous. Seigneur, les âmes souffrantes, il y en a tout autour de nous. Les âmes perdues, il y en a. Et les chrétiens qui sont malheureux, il y en a aussi, Seigneur. Et que tu nous aides à remplir ce rôle fidèlement. Merci pour ta parole, merci pour l'encouragement. Et nous te prions maintenant pour le restant de cette journée, de cette semaine, Seigneur, et que tu veuilles bénir et que nous puissions être fidèles à tes yeux, même dans l'épreuve, fidèles à toi, même dans les moments difficiles, même quand personne d'autre, eh bien, que nous te soyons fidèles, parce que tu sais honorer ceux qui te sont fidèles. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.